Chapitre 34, Priori incantatum. Quedver s'approcha de Harry qui s'efforça de se redresser pour pouvoir tenir debout lorsque les cordes auraient été détachées. Quedver leva sa nouvelle main d'argent, ôta le bâillon de la bouche de Harry, puis d'un geste trancha les liens qui l'attachaient à la pierre tombale. Pendant une fraction de seconde, Harry eut la vague tentation de s'enfuir, mais sa jambe blessée trembla sous son poids tandis qu'il reprenait son équilibre sur la tombe envahie de végétation. Le cercle des mange-morts se resserra, effaçant les espaces libres qu'auraient dû occuper les absents. Quedver recula jusqu'à l'endroit où était étendu le corps de Cédric, ramassa la baguette magique de Harry et la lui mit brutalement dans la main sans le regarder. Puis il alla reprendre sa place dans le cercle des mange-morts.
« On t'a appris à te battre en duel, Harry Potter, »
dit Voldemort à voix basse, ses yeux rouges étincelants dans l'obscurité. Harry se rappela le club de duel de Poudlard qu'il avait fréquenté trop peu de temps, 2 ans auparavant. Un souvenir si lointain en cet instant qu'il lui semblait provenir d'une vie antérieure. Tout ce qu'il y avait appris, c'était le sortilège du désarmement. Expelliarmus. Mais à quoi cela lui servirait-il, même s'il y parvenait, de priver Voldemort de sa baguette magique, alors qu'il était entouré d'au moins une trentaine de mange-morts? Il n'avait jamais rien appris d'autre qui puisse lui être utile dans une telle situation. Il savait qu'il allait devoir affronter ce contre quoi Maugret les avait toujours mis en garde, le sortilège d'Adava Kedavra, qu'il était impossible de conjurer. Et Voldemort avait raison, cette fois, sa mère n'était plus là pour mourir à sa place. Il n'avait plus aucune protection.
« Nous devons nous saluer, Harry, »
dit Voldemort. Il s'inclina légèrement, sa tête de serpent toujours droite face à Harry.
« Allons, il faut respecter les usages. Dumbledore serait content que tu montres ta bonne éducation. Incline-toi devant la mort, Harry. »
Les mange-morts éclatèrent de rire une nouvelle fois. La bouche sans lèvres de Voldemort s'étira en un sourire. Harry ne s'inclina pas. Il n'avait pas l'intention de laisser Voldemort jouer avec lui avant qu'il ne le tue. Il n'allait pas lui donner cette satisfaction.
« J'ai dit, incline-toi !»
insista Voldemort en levant sa baguette magique. Harry sentit son échine se courber malgré lui, comme si une main immense et invisible l'avait brutalement obligé à se pencher en avant, et les mange-morts se mirent à rire de plus belle.
« Très bien !»
dit Voldemort. Il leva à nouveau sa baguette et la main invisible qui pesait sur le dos de Harry relâcha sa pression.
« Maintenant, affronte-moi comme un homme, droit et fier, comme est mort ton père. Allez, en garde !»
Avant que Harry ait pu faire le moindre geste, il fut une nouvelle fois frappé par le sortilège d'Oloris. La douleur était si intense, si dévorante, qu'il ne savait plus où il se trouvait. Des lames chauffées à blanc transperçaient chaque centimètre carré de sa peau et sa tête n'allait pas tarder à exploser. Projeté par terre, il se mit à hurler comme jamais il n'avait hurlé dans sa vie. Puis la douleur cessa. Harry roula sur lui-même et se releva avec peine. Il était agité de tremblements aussi incontrôlables que ceux qui avaient secoué Quedver lorsqu'il s'était tranché la main. Perdant l'équilibre, il tituba et heurta le mur des mange-morts qui le repoussèrent vers Voldemort.
« On va faire une petite pause, »
dit celui-ci, ses narines de serpent dilatées par l'excitation.
« Ça t'a fait mal, n'est-ce pas, Harry? Tu n'aimerais pas que je recommence, je crois. »
Harry ne répondit pas. Il allait mourir comme Cédric. Il le voyait dans ses yeux rouges au regard impitoyable. Il allait mourir et ne pourrait rien faire pour échapper à son sort. Mais il n'allait pas laisser Voldemort jouer avec lui. Il n'allait pas lui obéir, il n'allait pas le supplier.
« Je t'ai demandé si tu aimerais que je recommence, » reprit Voldemort. « Réponds-moi, Impero. »
Et pour la troisième fois de sa vie, Harry éprouva la sensation que son esprit se vidait de toute pensée. C'était une telle félicité de ne penser à rien. Il avait l'impression de flotter, de rêver. « Réponds non, un simple non. Réponds simplement non. » « Je ne répondrai pas, » dit une voix plus forte encore, quelque part dans sa tête. « Je ne répondrai pas. »« Réponds simplement non. »« Je ne répondrai pas, je ne dirai rien. »« Réponds simplement non. »«
Je ne répondrai rien du tout !»
Ces mots avaient brusquement jailli de sa bouche. Ils se répercutèrent en écho dans tout le cimetière et la sensation de rêve s'évanouit aussitôt comme si on lui avait versé de l'eau glacée sur la tête. Harry ressentit à nouveau les courbatures qu'avait laissées dans tout son corps le sortilège Dolorès et reprit conscience de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il lui fallait affronter.
« Tu ne veux pas répondre, »
reprit Voldemort d'une voix très calme. Les Mangemorts avaient cessé de rire à présent.
« Tu ne veux pas répondre, non, Harry. » L'obéissance est une vertu que je vais devoir t'enseigner avant de te tuer. Encore une petite dose de douleur.
Voldemort leva sa baguette, mais cette fois Harry se tenait prêt. Avec une rapidité de réflexe qui lui venait de sa pratique du Quidditch, il se jeta de côté sur le sol, roula derrière la pierre tombale et entendit le sortilège fendre le marbre sans l'atteindre.
« On ne joue pas à cache-cache,
Harry. » dit la voix calme et glacée de Voldemort qui se rapprochait. Les Mangemorts avaient recommencé à rire.
« Tu ne vas quand même pas te cacher. Cela voudrait-il dire que tu en as déjà assez de notre duel? Tu préfères peut-être que j'en finisse dès maintenant avec toi? Allez, sors de là, Harry. Sors de là et joue le jeu. Ça ne sera pas long. Peut-être même que tu ne souffriras pas, j'en sais rien. Je ne suis jamais mort. »
Harry s'accroupit derrière la pierre tombale. Il savait que c'était la fin. Il n'y avait plus d'espoir, aucune aide à attendre. Mais tandis que Voldemort approchait, il fut au moins sûr d'une chose, par-delà toute raison et toute peur, il n'allait pas mourir accroupi là comme un enfant jouant cache-cache. Il ne mourrait pas à genoux devant Voldemort. Il mourrait debout comme son père et il mourrait en essayant de se défendre, même si toute tentative de défense était vouée à l'échec. Avant que Voldemort ait eu le temps de passer sa tête de serpent derrière la pierre tombale, Harry s'était levé. Il serra sa baguette dans sa main, la tendit en avant et surgit de derrière la tombe face à Voldemort. Celui-ci se tenait prêt. Au moment où Harry cria « Expelliarmus !» Voldemort lança
« Avada Kedavra !»
Un jet de lumière verte jaillit de la baguette de Voldemort à l'instant même où une lumière rouge fusait de celle de Harry. Les deux traits lumineux se heurtèrent en pleine course et tout à coup, la baguette de Harry se mit à vibrer comme si elle avait été parcourue d'un courant électrique. Sa main y était collée. Même s'il avait voulu, il aurait été incapable de la lâcher. Un étroit faisceau lumineux reliait à présent les deux baguettes magiques, ni rouge ni vert, mais d'une intense couleur or. Harry, stupéfait, suivit des yeux le rayon de lumière et vit que la baguette de Voldemort tremblait et vibrait avec la même intensité entre ses longs doigts crispés. C'était la dernière chose à laquelle Harry se serait attendu. Il sentit ses pieds se soulever du sol. Voldemort et lui s'élevèrent en même temps dans les airs, leurs baguettes toujours reliées par ce fil de lumière dorée et tremblante. Ils s'envolèrent lentement au-dessus de la pierre tombale et atterrirent sur un carré d'herbe nue, dépourvu de tombe. Les Mangemorts s'étaient mis à crier, demandant à Voldemort ce qu'il devait faire. Ils se rapprochaient, reformant le cercle autour de Harry et de leur maître, le serpent se tortillant à leurs pieds. Certains d'entre eux avaient sorti leurs baguettes magiques. Le fil d'or qui unissait Harry et Voldemort se morcela soudain. Leurs baguettes restèrent liées l'une à l'autre, mais des milliers d'autres traits de lumière furent projetés dans les airs, dessinant une multitude d'arcs entrecroisés au-dessus de leur tête. Bientôt, Harry et Voldemort se retrouvèrent enfermés sous un dôme d'or, semblable à une immense toile d'araignée lumineuse, au-delà duquel les Mangemorts resserraient leur cercle, tels des chacals, leurs cris étrangement assourdis.
« Ne faites rien !»
s'écria Voldemort. Harry voyait ses yeux rouges s'écarquiller de stupéfaction devant ce phénomène. Il le vit s'efforcer de rompre le fil de lumière qui reliait toujours les deux baguettes magiques, mais Harry serra sa baguette de plus en plus fort, des deux mains à la fois, et le fil d'or resta intact.
« Ne faites rien tant que je ne vous en aurai pas donné l'ordre !»
cria Voldemort à ses fidèles. Alors, un son magnifique et surnaturel s'éleva dans les airs. Il émanait de chaque fil de la toile lumineuse qui vibrait autour d'eux. C'était un son que Harry reconnut aussitôt, bien qu'il ne l'eût entendu qu'une seule fois dans sa vie. Le chant du phénix. Pour Harry, ce chant était celui de l'espoir, le plus beau son qu'il ait jamais entendu. Il eut l'impression que le chant ne résonnait pas seulement autour de lui, mais en lui, et qu'il le reliait à Dumbledore comme si un ami lui parlait à l'oreille. « Ne brise pas le lien. « Je sais, » répondit Harry comme s'il s'adressait à la musique. « Je sais que je ne dois pas le briser. » Mais à peine avait-il eu cette pensée qu'il lui devint de plus en plus difficile d'y parvenir. Sa baguette se mit à vibrer avec plus de force que jamais, et le rayon lumineux qui l'unissait à Voldemort se transforma lui aussi. On aurait dit que de grosses perles de lumière glissaient dans les deux sens le long du fil d'or. Harry sentit sa baguette trépider entre ses mains, tandis que les perles avançaient lentement dans sa direction. Peu à peu, les perles ne glissèrent plus que dans un seul sens, de Voldemort vers lui, et sa baguette se mit à trembler avec fureur. À mesure que la plus proche des perles de lumière avançait vers lui, il sentait le bois de sa baguette magique devenir si brûlant qu'il eut peur de la voir s'enflammer. Plus la perle se rapprochait, plus la baguette vibrait entre ses mains. Il avait la certitude qu'elle ne résisterait pas à son contact, qu'elle volerait en éclats sous ses doigts si jamais la perle la touchait. Le regard fixe, animé d'une lueur furieuse, il se concentra de toutes les forces de son esprit pour renvoyer la perle vers Voldemort, tandis que le chant du phénix continuait de résonner à ses oreilles. Alors lentement, très lentement, les perles de lumière s'immobilisèrent dans un frémissement, puis, tout aussi lentement, commencèrent à glisser dans l'autre sens. À présent, c'était la baguette de Voldemort qui vibrait avec une incroyable intensité. Voldemort qui sembla abasourdi, presque apeuré, en voyant l'une des perles de lumière trembloter à quelques centimètres de sa baguette magique. Harry ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Il ne savait pas à quoi cela pourrait bien aboutir, mais il se concentrait comme jamais il ne s'était concentré pour forcer cette perle à retourner dans la baguette de son ennemi. Toujours avec la même lenteur, elle avança peu à peu le long du fil d'or, trembla pendant un moment, puis toucha enfin la baguette. Aussitôt, la baguette magique de Voldemort émit des hurlements de douleur. Un instant plus tard, les yeux rouges du Seigneur des Ténèbres s'écarquillèrent devant cette vision. Une épaisse fumée en forme de main jaillit à l'extrémité de la baguette et disparut. C'était comme un fantôme de la main qu'il avait offerte à Queuevert. Il y eut à nouveau des cris de douleur, puis quelque chose de beaucoup plus grand s'éleva de la baguette, comme une fumée grise, d'une telle densité qu'elle paraissait solide. Une tête se dessina, puis un torse, des bras, le buste de Cédric Diggory. Harry retrouva une telle stupéfaction qu'il aurait pu en lâcher sa baguette, mais instinctivement, ses mains la serrèrent plus fort que jamais et le fil d'or resta intact, tandis que le fantôme gris de Cédric, mais était-ce un fantôme? Il paraissait si réel, surgissait tout entier à l'extrémité de la baguette magique de Voldemort, comme s'il s'extrayait d'un tunnel très étroit. Cédric, ou son ombre, debout entre eux, suivit des yeux l'arc que formait le fil d'or et parla.
« Tiens bon, Harry !» dit-il.
Sa voix était distante comme répercutée par un écho. Harry regarda Voldemort. Ses yeux rouges, grands ouverts, exprimaient l'ahurissement. Il paraissait aussi abasourdi que Harry lui-même. Harry entendit alors les faibles cris de frayeur des mange-morts qui tournaient autour du dôme doré. D'autres cris de douleur s'élevèrent de la baguette, puis une autre forme surgit à son extrémité. L'ombre dense d'une autre tête suivie d'un torse et de bras. C'était le vieil homme que Harry avait vu un jour dans un rêve. Il s'extrayait à présent de la baguette magique comme Cédric l'avait fait avant lui. Ce fantôme, ou cette ombre, ou il ne savait quoi, rejoignit Cédric, puis, appuyé sur sa canne, contempla avec une expression un peu surprise Harry, Voldemort, la toile d'araignée lumineuse et les deux baguettes unies par le fil d'or.
« Il était donc vraiment sorcier ?»
dit le vieil homme en regardant Voldemort.
« C'est lui qui m'a tué. À toi de le combattre, mon garçon. »
Mais déjà une autre tête apparaissait, une tête grise, comme une statue de fumée, une tête de femme cette fois. Harry, ses deux bras parcourus de tremblement, tandis qu'il s'efforçait de maintenir sa baguette immobile, la vit descendre lentement sur le sol et rejoindre les deux autres. L'ombre de Bertha Jorkins observait le combat avec de grands yeux ronds.
« Ne lâche surtout pas !»
s'écria-t-elle. Comme celle de Cédric, sa voix lointaine résonnait en écho.
« Ne le laisse pas te vaincre, Harry, ne lâche pas !»
Accompagnée des deux autres silhouettes fantomatiques, elle longea le cercle intérieur qui délimitait le dôme d'or pendant que les mange-morts s'agitaient à l'extérieur. Tournant autour des deux adversaires, les victimes mortes de Voldemort murmuraient des encouragements à Harry et lançaient d'une voix sifflante à leurs assassins d'autres paroles que Harry ne pouvait entendre. Une autre tête émergeait à présent de la baguette magique de Voldemort et Harry sut tout de suite allait apparaître. Il le savait, comme s'il s'y était attendu dès le moment où Cédric avait lui-même surgi. Il le savait parce que, plus que quiconque, la femme dont le visage se dessinait devant lui avait été présente dans ses pensées cette nuit-là. L'ombre de la jeune femme aux cheveux longs descendit lentement vers le sol, comme Bertha Jorkins, et le regarda. Harry, les bras plus tremblants que jamais, tourna les yeux vers le visage fantomatique de sa mère.
« Ton père arrive, » dit-elle. « Il veut te voir. Tout ira bien. Tiens bon. »
Et il apparut à son tour, sa tête puis son corps, grand, les cheveux en bataille comme ceux de Harry. James Potter déploya sa silhouette immatérielle à l'extrémité de la baguette magique de Voldemort, puis se laissa tomber sur le sol. Il s'approcha tout près de Harry, le regarda dans les yeux et lui parla de cette même voix lointaine qui résonnait en écho. Il parla à voix basse pour ne pas être entendu de Voldemort, qui était à présent livide de peur.
« Lorsque le lien sera rompu,
nous ne resterons que quelques instants. Mais nous te donnerons le temps. Il faut que tu retournes auprès du porte au loin. Il te ramènera à Poudlard, tu as compris, Harry ?»«
Oui !» dit Harry. Il luttait pour maintenir sa prise sur la baguette magique qu'il sentait glisser entre ses doigts.
« Harry, »
murmura la silhouette de Cédric,
« ramène mon corps, s'il te plaît. Ramène mon corps auprès de mes parents. »«
D'accord, » répondit Harry, le visage crispé par l'effort qu'il devait faire pour retenir sa baguette.
« Vas-y maintenant, » murmura la voix de son père. « Tiens-toi prêt à t'enfuir.
Maintenant. »«
Maintenant !» s'écria Harry. De toute façon, il n'aurait pas pu tenir sa baguette plus longtemps. Il la leva brutalement de toutes ses forces et le fil d'or se brisa. Le dôme de lumière s'évanouit aussitôt. Le chant du phénix s'interrompit, mais les silhouettes fantomatiques des victimes de Voldemort étaient toujours présentes et entouraient leur assassin, dérobant Harry à son regard. Harry courut alors comme il n'avait jamais couru dans sa vie, renversant au passage deux mangemorts abasourdis. Il courut en zigzag parmi les tombes, sentant derrière lui les sortilèges qu'il lui lançait et qui s'écrasaient contre les pierres tombales. Il se précipitait vers le corps de Cédric, tellement concentré sur son but qu'il ne ressentait plus aucune douleur à sa jambe.
« Stupéfixez-le !»
C'était la voix de Voldemort qu'il entendait hurler derrière lui. Parvenu à 3 mètres de Cédric, Harry plongea derrière un angelot de marbre pour éviter les jets de lumière rouge et vit une aile de la statue se fracasser sous le choc des sortilèges. La main serrée sur sa baguette, Harry se rua en avant. « Impedimenta !» s'écria-t-il en pointant sa baguette magique à l'aveuglette par-dessus son épaule en direction des mangemorts qui le poursuivaient. Un cri étouffé lui indiqua qu'il en avait arrêté au moins un. Mais il n'avait pas le temps de regarder en arrière pour vérifier. Il sauta par-dessus le trophée et se jeta à terre en entendant de nouveaux crépitements derrière lui. D'autres traits de lumière lui passèrent par-dessus la tête, tandis qu'il tombait en avant, tendant la main pour attraper le bras de Cédric.
« Écartez-vous, je vais le tuer. Il est à moi !»
hurlait Voldemort. La main de Harry s'était refermée sur le poignet de Cédric. Une seule pierre tombale le séparait à présent de Voldemort, mais Cédric était trop lourd pour qu'il puisse le porter et le trophée restait hors d'atteinte. Les yeux rouges de Voldemort flamboyèrent dans la nuit. Harry vit sa bouche se retrousser en un sourire, sa baguette se lever. « Axio !» hurla Harry en pointant sa baguette magique sur la coupe. Le trophée des 3 sorciers s'éleva dans les airs et s'envola vers lui. Harry l'attrapa par une anse. Il entendit le hurlement de fureur de Voldemort à l'instant même où il sentait au niveau de son nombril la secousse qui signifiait que le porte-loin avait fonctionné. Il l'emmenait au loin dans un tourbillon de couleurs, Cédric à côté de lui. Il retournait d'où ils étaient venus.